Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Le messager du cheval est heureux de recevoir à nouveau Virginie Bauer.
Bonjour Michel.
Qui, à travers ses recherches et ses écrits, enrichit fortement ce moment radiophonique consacré au cheval. Bien, chère Virginie, de ton érudition et de ta compétence, puisque tu es aussi une cavalière expérimentée. Alors, justement, le cheval, eh bien, de tous les animaux, le cheval est l'animal qui a été le plus représenté par les peuples qui le connaissaient, et ce, depuis les temps les plus anciens. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les hommes de la préhistoire peignaient des chevaux, ou même faisaient des petites figurines de chevaux, voilà. Et alors, parmi les artistes qui se sont largement inspirés de l'animal, on va faire un grand bond vers le présent, on pense immédiatement, Virginie, à Carl Vernet. Carl Vernet, que je crois que tu connais bien.
Quand on s'intéresse aux chevaux, on passe forcément devant des tableaux de Carl Vernet.
Des tableaux et des gravures
et
aussi,
des gravures,
parce
oui.
qu'il a beaucoup gravé. Alors, une petite bio, il est né à Bordeaux en 1758, c'est-à-dire pile poil au milieu du 18e siècle. Son vrai nom, en fait, c'est Antoine Charles Horace Vernet, voilà, mais on l'appelle Carl Vernet. Voilà, Carl, C-A-R-L-E. Alors, c'est extraordinaire parce que c'est une sorte de dynastie de peintres et de graveurs, puisqu'il est le fils de Claude-Joseph Vernet, donc qui, lui, s'intéresse pas tellement aux chevaux, mais peint des paysages. C'est plutôt cela qui l'intéresse. Et donc, Claude-Joseph initie son fils à la peinture, lui apprend à peindre. Et à son tour, Carl formera son propre fils, qui s'appelle Horace Vernet, et qui en fait, sera sans doute celui qui aura le plus de célébrité parmi la dynastie Vernet, parce que on oserait presque dire que c'est une sorte de dynastie de peintres, d'artistes. Comme toujours, les enfants n'ont jamais vraiment envie de faire comme papa. Et donc, le rejeton Vernet se spécialisera, lui, dans la peinture de bataille. Là, c'est la chose qui l'intéresse. Voilà. C'est vrai que coincé entre les talents du père et du fils, puisque tous les deux étaient assez célèbres, Carl Vernet va se réfugier dans une peinture de genre plus légère et, que j'aurais presque envie de dire, moins innovante. Moins innovante. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais quelque chose de plus classique. On a l'impression qu'il n'a pas tellement eu envie de bousculer la peinture.
C'est un homme, comme tu le disais, qui est à la frontière entre deux époques, la fin du 18e, le début du 19e. Donc, il est probablement effectivement modeste par rapport à la manière d'appréhender son art.
En fait, on s'apercevra qu'il a quand même, dans l'histoire de l'art en France, il a quand même fait progresser pas mal la peinture et la gravure également. Alors de lui-même, c'est quelqu'un qui avait de l'humour, puisque coincé entre les talents donc du père et du fils, donc Carl Vernet se réfugie, comme on vient de le voir, dans une peinture plus légère. Et à ce propos, il aura cette phrase, il dira de lui-même... Alors, je le cite, « Je ressemble au grand dauphin, fils de roi, il parle de son père de roi, il parle de son fils, mais moi, jamais roi. » Alors, qu'est-ce que ça t'inspire? Il avait de l'humour, cet homme.
Hein. Oui, et heureusement pour lui, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'avoir un fils brillant et un père brillant.
Oui, un petit peu entre deux géants, en fait, hein, entre deux géants, voilà. Et alors, juste un petit détail historique, en disant cela, Carl Vernet fait allusion au dauphin Louis, fils de Louis XV, et donc Louis XV écartera son fils du pouvoir. Mais, petite revanche, le dauphin Louis, finalement, sera le père de trois rois, donc Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Voilà, donc un joli petit pied de nez à papa là aussi. Alors, Carl Vernet, effectivement, a eu de grands ancêtres, et en particulier, un évidemment célébrissime, c'est David.
Oui, David, et c'est là aussi qu'on peut mettre en parallèle, quand on disait un homme modeste, c'est-à-dire qu'il n'a pas été dans l'opportunisme de David, qui a su être présent au bon moment et s'est engouffré avec Napoléon, premier consul, puis empereur, dans le mythe de l'empereur, dans le mythe de l'homme, et l'a glorifié.
Donc c'est vrai que David était un artiste qui, comment dirais-je, faisait presque une étude de marché avant de faire quelque chose. Il était très attentif à ses intérêts aussi.
Mais Napoléon était un grand communicateur et il a vu dans les artistes de l'époque, puisqu'il n'y a ni télévision ni aucun média moderne, c'était donc par le biais de la peinture, de la gravure, la manière d'écrire sa gloire, sa mythologie personnelle. Et pour ça, les peintres comme David ou Horace, le fils de Karl, et Karl lui-même, ont participé à cette épopée.
C'est vrai, mais on peut dire que David quand même est peut-être effectivement le fils de Karl. Bon, David avait beaucoup d'entre-gens, quoi. C'était aussi un homme d'affaires.
C'était aussi, c'est-à-dire, c'est oui, et puis Napoléon passait ses commandes. On en a un exemple avec ce magnifique tableau de David, de Napoléon franchissant les Alpes, hein, sur un cheval cabré, cape rouge au vent, image complètement fabriquée, puisque Napoléon n'avait pas le temps de poser, et il a dit à David, voilà, je veux un cheval calme, face au calme de la bataille à venir, et David est parti dans les écuries, s'inspirer des chevaux présents dans les écuries impériales pour faire un cheval idéalisé et qu'il déclinera en 5 tableaux différents et 5 couleurs différentes.
Et 5 couleurs différentes. Alors ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que le même cheval, oui, change de robe. Mmh. Et tu me disais tout à l'heure aussi que ces chevaux étaient un petit peu bizarre, il n'y avait pas que un petit bout d'un cheval, un petit bout de l'autre ou quelque chose comme cela.
Je pense qu'il faisait plutôt il crée comme beaucoup d'artistes qui sont très identifiables à leur style. Il s'inspirait des chevaux vraiment qu'il connaissait et qu'il connaissait bien pour créer un cheval idéal que l'on retrouve au gré des tableaux qu'il a peints.
Effectivement, on est aussi sur un art qui est extrêmement figuratif, c'est-à-dire, bon, on le voit, les peintures de chevaux, si on remonte dans le temps, sont idéalisées, mais souvent, comment dirais-je, on voit que ce sont des chevaux, mais des chevaux un petit peu bizarres, hein. Très exagérés, souvent sont des chevaux barbes ou des chevaux qui viennent d'Afrique du Nord avec des encolures, mais monstrueuses en quelque sorte. Alors que là, David, quand même, le cheval est beaucoup plus respecté dans sa forme, je dirais pas normale, mais habituelle.
Oui, d'un point de vue morphologique, on n'a rien à dire. Si ce n'est qu'il a peut-être un côté classique, hellénisant, on dira parfois. Mais je pense que David, par rapport à d'autres artistes à qui Napoléon a passé commande, et on sait qu'il a passé commande notamment à Horace, fils de Karl, de toute une série de tableaux, il y en a 23 qui étaient des chevaux présents dans ses écuries. Là, avec Horace, on est plus proche de la vérité de ce qu'étaient les chevaux de Napoléon, alors qu'avec David, on reste dans la mythologie.
Et c'est vrai qu'il y a un air de ressemblance quand on voit les chevaux de David. On a l'impression de voir en peinture des statues grecques ou des statues romaines. Enfin, les chevaux tels que les Grecs et les Romains se les représentaient. Alors, Karl Vernet, pour revenir à lui, un peintre, un graveur, bien évidemment. Il faisait beaucoup de gravures avec le processus de la lithographie. Donc, il en a fait beaucoup. Alors, il était très bon, par exemple, dans la caricature. Il aimait beaucoup ça. En particulier, il s'amuse à ridiculiser les mœurs de son temps et en particulier la mode vestimentaire et le langage on dirait des snobs de l'époque. Ça l'amusait beaucoup, ce qu'on appelait les incroyables et les merveilleuses, voilà, qui s'habillaient de façon assez baroque, on va dire, et qui alors affectait de ne pas prononcer les R. Les R, oh, c'était affreux, on ne prononce pas les R. Et alors dans cette même veine satirique, il grave une série d'animaux debout et revêtus d'habits, comme les humains, et une idée qui sera reprise par le graveur et dessinateur du 19e siècle, Jean-Gérard dit Granville, son pseudo c'est Granville, et donc je crois qu'on a dû tous voir ça dans des vieux bouquins, parce que on retrouve les vignettes de Granville, en particulier dans les fables de La Fontaine. Puis alors, il a fait aussi beaucoup de scènes de chasse, Karl Vernet. Énormément de scènes de chasse. Et enfin, n'oublions pas que nous sommes au début du 19e siècle, il a peint et gravé pas mal aussi de courses de chevaux. Alors, pourquoi cet engouement pour les courses de chevaux ?
Parce que beaucoup de peintres partent en Angleterre et découvrent ce sport qu'on appelle le sport des rois et en reviennent fascinés. On en a un exemple avec Géricault plus tard en particulier, et qu'on va retrouver dans les tableaux de Delacroix. C'est l'anglomanie qui va se développer tout au long du 19e siècle.
Parce que les courses de chevaux, on n'organisait pas des courses de chevaux en France, c'était pas une pratique qui était faite.
Les courses de chevaux ont toujours existé en France, mais cela a évolué en particulier au 19e siècle par rapport à ce qui était fait en Angleterre, c'est-à-dire que ce sont les Anglais qui les premiers ont théorisé la course moderne que l'on connaît aujourd'hui. On sait qu'il existait des hippodromes sous la Gaule romaine, hein.
Ah oui, la Gaule romaine, oui. Ça, tout à fait d'accord, oui.
Mais pas que, mais indépendamment aussi des Romains. Donc les courses ont existé en France, mais et depuis très longtemps. Mais sous leur forme actuelle, c'est beaucoup plus tardif.
Bon, on sait que les Anglais ont des champs de courses, évidemment, dont certains sont très célèbres, comme Epsom, que tout le monde connaît. Est-ce qu'on avait ce genre d'infrastructure pour faire courir les chevaux ?
Ça, c'est venu à l'époque dont nous parlons, au 19e siècle. C'était des gentlemen, souvent issus de la noblesse, passionnés par les courses, qui se mesuraient les uns aux autres dans des lieux, c'est déjà ça comme ça en Angleterre, dans des lieux qui vont devenir de célèbres hippodromes, comme Chantilly.
Comme Chantilly, oui, tout à fait. Autre chose aussi... Est-ce que on a assisté à l'importation de chevaux anglais, ce qu'on appelle les chevaux anglais, avec cette anglomanie?
Ah oui, tout à fait. Les riches propriétaires qui montaient également leurs chevaux en course avant que cela prenne une dimension plus sportive avec écurie, justement, allaient acheter des chevaux en course, des chevaux de course en Angleterre, pardon, et revenaient avec ces chevaux et les faisaient courir contre ceux de leurs camarades. Et c'est devenu une espèce de mode. Puis ensuite, on a eu des propriétaires anglais qui sont venus s'installer en France et qui ont fait courir leurs chevaux.
Quand on lit, par exemple, l'ouvrage du comte de Comminges, qui était un célèbre atteleur, qui attelait très bien, qui a fait beaucoup de traités là-dessus, lui préconisait le cheval anglais. Il disait qu'il n'y a qu'un seul cheval qui est bon pour tout, c'est le cheval anglais.
Alors ça, cela n'engage que lui, mais en tout cas pour la course, le pur sang reste le modèle de référence au 19e siècle.
Alors, revenons toujours à Karl Vernet, et en fait, il acquiert quand même la célébrité en tant que dessinateur de chevaux. C'est quand même cela qui est retenu, parce on l'a vu, il a fait des caricatures, il a fait plein de dessins différents, mais c'est quand même le dessinateur de chevaux. Enfin, à tel point qu'il va même se détourner de la peinture d'histoire mythologique, toujours en vogue à l'époque. C'est-à-dire où on représente des scènes de l'histoire comme cela, un petit peu toujours pareil, en refaisant ce qui avait été fait avant, évidemment, une histoire mythologique, c'est-à-dire une histoire rêvée, pas une histoire, j'oserais dire, d'historien, pas une histoire scientifique. En revanche, s'il laisse un petit peu tomber la peinture d'histoire mythologique, il s'intéresse énormément aux scènes d'histoire de son époque. Voilà, c'est-à-dire un petit peu comme un reporter et qui en fait n'était pas tellement prisé par ses contemporains. Il en a pas vendu beaucoup, mais par contre, ça plaisait bien à Napoléon. Napoléon n'aimait pas trop ces scènes un petit peu rêvées, un petit peu trafiquées. Lui, en bon général, il voulait quelque chose comme une carte, quoi. Bon, une carte mal fichue, on s'en sort pas. Un peu de la même façon, ce qu'il aimait, c'était des toiles, c'était des peintures, des gravures qui représentaient d'une certaine façon la réalité, c'est-à-dire un petit peu comme une photographie.
Je pense que tous les moyens étaient bons pour construire sa légende, et cette représentation réaliste que l'on trouve dans les tableaux de Karl Vernet servait parfaitement les dessins de Napoléon. on est toujours dans la communication et il faut à la fois montrer la grandeur et la réalité de la guerre. Et cet aspect très réaliste des œuvres de Calvernet servait ses dessins à ce moment précis. De même qu'il a utilisé des représentations beaucoup plus allégoriques sur d'autres, avec d'autres peintres sur d'autres tableaux de bataille.
Alors justement, je pense à deux tableaux en particulier, donc l'un qui est intitulé la bataille de Marengo, et l'autre, le matin d'Austerlitz, donc deux batailles et deux victoires, évidemment, de Napoléon. Et la précision de Carl Vernet fait que ces tableaux auraient pu très bien illustrer un manuel militaire, un manuel de tactique militaire. Alors, chaque détail est soigné, précis, depuis les uniformes, les armes, l'expression des soldats et des chevaux, En fait, de véritables reportages. Et il faut bien dire que ça fait le bonheur des historiens.
Bien sûr.
Parce que là, vraiment, il voit exactement comment les choses se passaient. Alors, Carl Vernet meurt à Paris le 27 novembre 1836, à l'âge de 78 ans. Donc, il a quand même eu, pour l'époque, une vie relativement...
Une longue vie.
Une longue vie, voilà, absolument. 78 ans, ça commençait à faire un peu. Et alors, Finitive, selon toi, Carl Vernet serait-il en quelque sorte le petit canard de la famille Vernet, autrement dit, un poney au milieu de grands chevaux, ou plus sérieusement ce que les historiens d'art appellent un artiste de transition?
Oh, c'est très clairement un artiste de transition.
Ayant été toujours un petit peu effacé, ni trop d'un côté, ni trop de l'autre, finalement c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il a fait passer, qu'il a pris, puisque bon, il est quand même un pied dans le 18e siècle, et il fait passer pas mal de choses au 19e siècle. Est-ce que tu as des choses à raconter sur Carl Vernet, par exemple, qui te viennent à l'idée?
Non, pour moi, c'est des gravures de chevaux arabes menés en main, avec qui me fascinaient quand j'étais enfant, avec le magnifique harnachement, les costumes chatoyants des hommes qui les tenaient. Il y avait tout un exotisme là.
Il y avait tout un exotisme, oui. Et qui annoncera ensuite ce qu'on appelle l'orientalisme.
Absolument.
Voilà, c'est-à-dire où les Européens, et les Français en particulier, découvriront de façon complètement éblouie, enfin le fameux tour en Orient qui était préconisé en particulier à beaucoup de jeunes gens, où ils découvriront un monde, on peut dire, complètement nouveau, qu'ils connaissaient vaguement justement par ses peintres, par ses graveurs, y compris peut-être aussi un peu par quelques musiciens, mais qui était quelque chose encore un petit peu de flou. Faut pas oublier que le Tour d'Orient avant c'était Rome, et puis après les conquêtes ça a été évidemment l'Afrique du Nord et le Proche-Orient, en particulier la Syrie, où les Français sont allés beaucoup se balader. Alors le mot de la semaine, c'est le cheval guincheur. Alors ça t'évoque quoi? Un cheval guincheur, qu'est-ce que ça peut bien être?
Un cheval qui danse.
Un cheval qui danse, qui guinche, oui, alors effectivement, puisque guincher, ça veut dire danser, hein, c'est un mot de français médiéval qui veut dire, en fait, au point de départ, c'est s'éviter, ne pas se toucher, quoi, voilà, c'est ça, donc un petit peu faire comme l'anguille, voilà. Et en fait, le mot un petit peu oublié réapparaît très curieusement, ou pas si curieusement que cela, dans la première moitié du 19e siècle, avec en particulier l'apparition des guinguettes, où les gens viennent danser essentiellement, pas tellement boire, mais surtout danser. Voilà, c'est se réunir. Et c'est très populaire, les guinguettes, hein, c'est un petit peu pour tout le monde. Et donc, ce terme évolue et guincher veut dire danser. Donc, on n'en est plus à s'éviter, etc., comme quelques siècles auparavant, mais ça veut dire danser. Alors, tu l'as dit, les chevaux bien mis sont en quelque sorte des chevaux danseurs, hein. Cite-nous un air où vraiment on a l'impression que le cheval danse.
La polka est une danse à trois temps.
Mais pour le cheval.
Pour le cheval,
oui. À moins que tu connaisses des chevaux qui dansent la polka.
Ah bah oui, quand il passage, pourquoi pas.
Voilà, c'est ce que j'attendais. Quand il passage, c'est vraiment, on a ces chevaux, surtout un passage très lent, très ample. On a vraiment l'impression, et oui, le cheval danse. Mais écoute, je vais te décevoir, je suis désolé Virginie, parce que en hippologie, c'est que l'hippologie récupère beaucoup de mots du français pour décrire certaines situations ou certaines conformations de l'animal. Donc en hippologie, ben le sens est drôlement différent et beaucoup moins sympathique. Parce qu'en effet, un cheval dit guincheur est celui qui, en approchant de l'écurie, frappe du pied et cherche à mordre.
Ouais, effectivement, j'en suis très loin.
C'est une autre danse, mais assez différente. Voilà ce qu'on appelle un cheval guincheur. Est-ce que tu as déjà vu ça? Moi, j'en ai vu un une fois dans la vie. Effectivement, c'est extraordinaire. Tu le prends comme ça, en main, tu descends, tu t'approches de son box, et là, il commence à pas piétiner, mais à gratter de façon un petit peu nerveuse. Et puis, alors, deux choses. Soit il essaye de te mordre, soit il essaye de s'attraper l'épaule aussi, de se mordre lui-même. Alors, je ne sais pas, il faudrait demander à un spécialiste, un vétérinaire, est-ce que c'est quelque chose dans le pois chiche qui se dérègle, ou etc.
Mystère,
voilà. Mais écoute, je te souhaite pas de tomber sur un cheval guincheur, c'est pas très très amusant. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Et ce cheval est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche de Rouergue 90.2. Et vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site CFM Radio .fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Alors encore une fois, merci Virginie
de
nous ouvrir les yeux. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles. Et bien sûr, un grand bravo à nos chevaux. Même guincheur, on dit.
Même guincheur.
Ciao, ciao.